sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos.
Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore. Angèle, dans le camp d'Argelès-sur-Mer. Angèle a 10 ans. Il fait partie des 500 000 réfugiés espagnols qui arrivent en France pour fuir les troupes franquistes entre fin janvier et début février 1939. Épuisés, avec sa sœur et son petit frère, ils arrivent enfin à la frontière française, après 30 km de marche. Ils ont passé plusieurs jours et plusieurs nuits dans le froid, la faim au ventre, dans le flot d'une vaste foule fuyant les troupes franquistes, pauvres témoins des atrocités d'une nouvelle guerre de terreur qui bombarde et mitraille la population.
Les séquelles de cet exode resteront à jamais en nous. Nous ne serons jamais comme les autres. Quand un enfant voit la mort autour de lui, il perd son enfance pour devenir une bête triste, sans repère. Nos cœurs ne battent pas comme ceux des autres, et nos pensées seront toujours prisonnières de nos souvenirs. Le fleuve humain continuait d'avancer, comme si aucune puissance n'était capable de l'arrêter. Enfin, nous arrivons à la frontière. Pourquoi ceux qui disent être nos amis nous attendent-ils avec des fusils ?
Après hésitation, le gouvernement décide d'ouvrir la frontière qu'il avait dans un premier temps fermée en y plaçant des gardes mobiles et les troupes coloniales armées. Première ouverture, le 28 janvier 1939, seulement pour les civils et les infirmes. Enfin, 8 jours plus tard, les soldats républicains peuvent entrer également désarmés.
En arrivant à la frontière, il y avait les gardes mobiles, à l'époque c'était les gardes mobiles qui nous attendaient, avec des fusils. Bon, alors on les sépare les femmes d'un côté avec les enfants. Au début on est allé dans un village, mais ils nous ont groupés, les enfants par groupe aussi. Et mon groupe, on est allé dans une écurie. On me rappelle toujours cette écurie. On nous met dans l'écurie là-bas, et il y avait un bourricot là-bas, un âne. Alors on faisait attention parce qu'il avait des coups de pied lui. Alors, on nous laisse avant, on était une vingtaine là-bas dans la curie, là. Puis un bonhomme qui est venu, qui parlait catalan. Il nous regarde, mais il s'en va. Et avant qu'il parte, moi je m'approche de lui, et je lui demande, on ne peut pas boire, manger par ici, on avait une faim terrible. Il me dit, mais tu parles catalan, toi? Je dis, ben oui. Alors on a parlé un peu en catalan, et je lui dis, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? On commence avec les autres, vous allez dans des baraques, puis après on verra.
Toutes les prévisions ont été dépassées, à tel point que les services organisés sur leur base ont complètement été débordés. Les barrages s'ouvrent périodiquement pour laisser passer les femmes, les enfants, les vieillards, les malades et les blessés qui, une fois admis au Pertus, dont les quelques abris contiennent plus de monde que leur capacité ne le permet, piétinent sur place, en plein air, dans le froid et sous la pluie.
Extrait de l'écrit du procureur général de Montpellier, dépêché sur place, daté du 31 janvier.
On est sortis, 3 ou 4 ans, on sortait un éclaireur chercher à manger. Et puis, bon, il y avait une place, une petite place. Puis, on tentait de voir dans une petite rue, là-bas. On s'approche, là-bas. Et bien, il y avait des quakers ou je ne sais pas quoi là, qui donnaient à manger. Ils avaient mis des grandes tables et ils donnaient à manger. Alors nous, on arrivait, et tout de suite, vous voulez manger? Oh, ben oui, on a bien mangé. Et après, on est allé chercher les autres pour manger. On s'était basé de l'écurie. Ça, c'était un détail qui était bien quand même. Et après, bon, ils sont venus nous chercher et on nous a emmenés dans des baraques. Et dans la baraque, là, on n'est pas resté longtemps. Hein. Alors, c'est là qu'ils nous ont vaccinés. Pour nous vacciner, il y avait une grande table. Au bout de la table, il y avait un grand bocal en verre, un liquide dedans. Et après, à côté, là, ils avaient des plumes. C'est bien comme des plumes à écrire, hein, pour écrire. Quand on écrivait avec l'encre. Alors, ils trempaient la plume dans le liquide. C'était le même liquide, la même plume. Et on passait tous derrière l'autre, puis pas. Ils grattaient avec, puis ça y est. Il y a eu beaucoup d'infections. C'était le même liquide, la même plume. Ils grattaient tout le monde.
Les camps de concentration sont des camps de refuge dans lesquels l'on rassemble, sous la surveillance de troupes, soit des populations civiles de nationalité ennemie, soit des suspects, soit des soldats prisonniers.
Dictionnaire Larousse, 1927.
Et de là, on est allé dans une autre baraque, et au bout de quelques heures, ils sont venus nous chercher. Il y avait des femmes et des enfants. Ils sont venus nous chercher avec des camions. On nous l'a chargé. On s'est trouvé sur le sable, à Argelès.
Il s'agit simplement d'un espace de transition. Le camp d'Argelès-sur-Mer ne sera pas un lieu pénitentiaire, mais un camp de concentration. Ce n'est pas la même chose.
Annonce d'Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, en février 1939.
On s'est trouvé là-bas avec des barbelés, et puis le côté mer, là, il n'y avait pas de barbelés. Il y avait du vent qui se levait. On avait des femmes qui faisaient un trou dans le sable. Nous, on ne savait pas pourquoi elles le faisaient, mais enfin, on se dit, s'ils font un trou, il y avoir une raison. Alors, regardez bien, moi, j'avais 10 ans, déjà grand. Ma sœur, elle avait 6 ans, et mon frère, 4 ans. Tous les trois, à faire un trou avec les mains. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un enfant de 4 ans faire un trou avec les mains? Et c'est ce que nous avons fait. Et puis bon, au bout d'un moment, le trou était déjà assez grand. Et puis le vent commence à souffler. Effectivement, les femmes, les enfants se mettaient tous dans le trou. Alors nous, on se met dans le trou. Et comme on avait une couverture, on s'est couvert avec la couverture. Au bout d'un moment, j'avais des problèmes pour respirer. Ma soeur avait les yeux fermés. Mon frère, il bougeait un peu là. Mais on s'étouffait, quoi. Alors je lui dis, José, tu m'aides, on va pousser. Alors, lui, il essaie de pousser, moi aussi, et on n'arrivait pas à décoller la couverture. Elle était couverte de sable. Et heureusement, je lui ai dit d'appuyer un coin. Et là, oui, quand j'ai appuyé sur le coin, j'ai soulevé la couverture, elle est rentrée, elle a pu respirer. Et puis petit à petit, on s'est dégagé de la couverture. Autrement, on serait mort là-dedans.
Un mot singulier, arénitis, fait son apparition dans la langue des réfugiés, forgé à partir de arena, le sable en espagnol, pour désigner la psychose née à la fois du sable et du vent de la plage, des barbelés du camp et de l'absence d'espérance.
Extrait de l'exil des républicains espagnols en France, de Geneviève Dreyfus-Armand.
Comme je vous ai dit, quand on arrivait, la plage était vide, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de baraque, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de point d'eau, hein. Ni latrine, ça, rien. Et ils sont arrivés avec une citerne pour que les gens puissent boire. Seulement, la citerne avait un robinet, mais les gens n'avaient pas tous des gourdes, ni les verres, ni rien. Donc le robinet restait ouvert, ils arrivaient, ils buvaient comme ils pouvaient. Avec un froid terrible, alors ils sont mouillés complètement, quoi. Nous, comme on avait les gourdes, j'ai rempli mes deux gourdes, ils buvaient avec les gourdes, là on était bien.
Sur une lande stérile, près d'Argelès, recouverte de sable et d'une végétation maigre et rabougrie, le long de la côte, près de 150 000 réfugiés espagnols, parqués les uns sur les autres, vivent dans d'épouvantables conditions d'hygiène et sont soumis à d'incroyables brimades de la part des autorités militaires qui sont gardes du camp. L'arme au bras, sénégalais et croumières marocains empêchent les réfugiés de quitter l'enceinte barbelée, même pour les besoins les plus pressants. Une discipline de fer et des méthodes pénitentiaires y ont été instaurées.
Autrement après, ils sont arrivés avec une camionnette pour nous donner à manger. Ils ont acculé la camionnette contre le barbelé. Et d'en haut de la camionnette, on était gardés par des forces coloniales. Donc c'est les forces coloniales qui s'occupaient de nous. Ils avaient des boules de pain et ils nous jetaient les boules de pain. Alors nous, ben, on se jetait comme on pouvait pour prendre les boules de pain. Il y avait un là qui était passé avec les femmes, un jeune, qui s'était fait passer par un valide. Ceux qui étaient invalides aussi, ils passaient avec nous, avec les femmes et les enfants. Quand ils jettent une boule de pain, moi je me jette pour prendre la boule de pain. Mon frère, ma soeur, ils m'attendaient au trou là-bas. Et lui se jette aussi prendre cette boule de pain. Alors, il était plus fort que moi, lui. Alors il m'a arraché. Hop, oh, c'est pas possible. Et moi, j'ai tenu la boule de pain. Et bon, alors, j'ai fait comme à l'autre, comme à Pasquale, je l'ai mordu la main. J'ai mordu le doigt aussi, mais celui-là, je l'ai presque arraché le doigt. Oh, il a poussé un cri. Alors moi, je suis parti avec ma boule de pain et lui derrière moi. Tout le temps, nous avons fait en courant. Mais à l'époque, je courais, moi. Et puis, j'ai pu le perdre, quoi. Je suis arrivé au trou là-bas, on a mangé la boule de pain. Qu'il y avait pas mal de sable aussi, mais enfin, on a tout mangé.
Les soldats et civils espagnols qui sont soumis reçoivent pour toute nourriture du pain et de l'eau. Les distributions de pain y sont faites une fois par jour, à raison d'une mige d'un kilo pour 5 personnes. Quant à l'eau, puisée par pompe dans les nappes souterraines, elle est depuis plusieurs jours polluée par les urines et les excréments.
Écho tragique des camps de concentration du journal L'Humanité du 15 février 1939.
On n'est pas resté longtemps. Quelques jours après, eh bien, ils ont appelé tous les enfants, qu'on se met tous en rangée, et on passait devant une petite baraque qu'ils avaient fait là-bas, pour prendre le nom, l'âge, etc. etc. Beaucoup ne savaient même pas, ils savaient leur nom, mais ils ne savaient pas d'où ils venaient, ni rien, quoi. Quand c'est à moi, je dis d'où on vient, ma soeur, mon frère, etc. Je leur dis pas la date de naissance parce que je ne le savais pas. Et puis bon, au fur et à mesure qu'on passait, qu'ils inscrivaient tout ça, on nous faisait rentrer dans une autre grande baraque. Et dans l'autre grande baraque, ils nous séparaient. Ceux qui avaient moins de 10 ans d'un côté et plus de 10 ans de l'autre. Ça fait qu'à ce moment, on m'a séparé de mon frère et ma soeur. Je ne vous dis pas. La colère que j'ai pris, les coups de pied que j'ai donnés, et les forces que j'ai dépensées là-bas, ou les énergies que j'avais pas, pour pas commencer par mon frère et ma soeur. Non. Ils étaient plus forts que moi, ils ont réussi à me séparer.
Ces hommes ne comprennent pas qu'ensemble, nous avons supporté toutes les misères du monde, et que nous avons vécu une éternité malgré nos jeunes âges. En un court laps de temps, ils nous ont fait plus de mal que la guerre. Le froid, la faim et toutes ces atrocités que nous avons vécues. Quelle est cruelle notre destinée, maman. Nous rencontrerons-nous un jour? Que dire, que faire, que penser? Tout m'était égal, indifférent. Je ne sens ni le froid, ni le chaud. C'est comme mourir sans se rendre compte qu'on est encore en vie.
Thank you.
C'était Angel dans le camp d'Argelès-sur-Mer, sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore, soutenue par la région et la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.